certains domaines, source fréquente de blocage comme là actuellement sur la.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Sporama sur VOA Afrique, votre émission sportive hebdomadaire. Tout d'abord, on salue nos consultants et on prend la direction de Casablanca au Maroc pour retrouver Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Alizé. Bonsoir à tous.
À Kinshasa, nous avons Valdo Simo Yamba. Bonsoir Valdo.
Bonsoir Alizé et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Jules Valentin Ongwe est lui à Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous.
On se rend à Dakar au Sénégal où se trouve Amédine Sy. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis Lawal Dine Kosouro est dans ce studio avec moi. Lawal, bonsoir.
Élisée, bonsoir.
Dans les débats du jour, les demi-finales allées des interclubs de la CAF, le championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball et puis l'épilogue du Tour international de cyclisme au Bénin. Bienvenue à tous. Football féminin pour commencer, avec le tirage au sort de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans. Valdo, tirage compliqué pour le Nigeria, logé dans le groupe C avec la France, le Canada et la Corée du Sud.
Effectivement, Élisée, ces tirages au sort de la phase finale de la Coupe du monde féminine des moins de 20 ans paraît très complexe pour les Nigériens qui doivent batailler dur pour sortir d'abord de ces groupes avec un ticket qualificatif afin de tenter d'aller le plus loin possible. Il faudra d'abord bien s'y prendre devant la France qui a été quatrième de sa Coupe du monde en 2018 et voudrait bien tout mettre en œuvre pour parfaire ce qui n'a pas été à domicile. La Corée du Sud serait peut-être le plus abordable des adversaires dans ces groupes C, mais il faudra toutefois rester concentré quand on sait que le Canada pourrait être difficile à manœuvrer. Fort de ses deux finales 2010 et 2014, perdues et à une quatrième place en 2012, le Nigeria a tout pour rivaliser avec ses adversaires en phase de groupe et si possible tenter de réécrire à nouveau l'histoire de sa participation à cette compétition d'âge et pourquoi pas cette fois s'offrir ses trophées qui a été à leur portée à deux reprises.
Très compliqué en revanche pour le Ghana qui hérite du groupe D, celui des championnes du monde japonaises, des américaines et les hollandaises. Jules, rien que de grandes nations du foot féminin.
Absolument, Élisée. Un tirage au sort certainement compliqué pour les Ghanéennes qui tirent tout simplement ce qui se fait le mieux en matière de football féminin dans le monde. Elles doivent affronter les américaines, ses éternelles favorites, toutes catégories confondues, dont l'expertise et la carte de visite sont impressionnantes. Les Nord-Américaines sont champions du monde en titre chez les grandes et ce n'est un secret pour personne qu'en matière de football, elles représentent depuis des lustres mieux leur pays que les hommes avec lesquels leurs salaires viennent d'être harmonisés. À côté des Américaines, il y a leur dauphine du dernier mondial, les Néerlandaises, plus toniques que jamais, le troisième larron étant le Japon, champion du monde de la catégorie, qui remet son titre en jeu. Si l'on tient compte du fait que, chez les dames, les carrières étant plus courtes, les passages d'une catégorie à l'autre sont plus rapides. La hiérarchie change peu. Des équipes fanéons aux jeunes, pratiquement déjà dans l'antichambre de l'équipe A. Les Ghanéennes ont donc du souci à se faire. Elles qui constituent avec le Nigeria les plus vieux foyers de football féminin sur le continent et savent ratisser large à l'international pour représenter une formation toujours plaisante et prête à se mettre en phase. Élisée, la tâche est rude, mais je pense que les Ghanéennes peuvent se faire respecter.
Lawal, des poules très relevées pour les deux représentants africains.
Élisée, il faut véritablement reconnaître que c'est relevé, mais impossible n'est pas africain. C'est pas la première fois que ces équipes participent à une Coupe du Monde de cette catégorie. Donc, on attend des Africaines, des équipes représentant l'Afrique de forcément montrer ce qu'elles savent faire.
Mais le niveau du football féminin en Afrique est faible, surtout au niveau de la formation aussi.
Non, la formation et le niveau, on peut en parler, mais fondamentalement, ces équipes qui ont réussi à se qualifier ne sont pas à leur première expérience. Donc, quand on sait que certains pays font l'effort de rester présents chaque fois dans le giron international du foot féminin. Il faut espérer que l'on puisse changer de fusil d'épaule au niveau de la CAF afin que le foot féminin soit autant pris au sérieux que le foot au masculin. Mais nous, on doit garder espoir que les équipes qui représentent l'Afrique à cette compétition, faut pas faire piètre figure, vont montrer véritablement qu'elles sont là pour fondamentalement montrer, faire en sorte que l'Afrique soit dignement représentée. Donc, elles vont pas en victime expiatoire, mais elles vont pour montrer la valeur du foot féminin en Afrique, Élysée.
Mais merci, la poule A est composée du pays hôte, le Costa Rica, l'Australie, l'Espagne et le Brésil. L'Allemagne, la Colombie, la Nouvelle-Zélande et le Mexique composent le groupe B. La compétition se déroule du 10 au 28 août prochain. Football au niveau des clubs, avec les demi-finales allées de la Ligue des Champions. Et le champion a fait un carton à l'Allée du Caire. Double tenant du titre, 10 fois vainqueur de la compétition, a étrié les Algériens de l'Entente de Sétif 4-0. À Médine, si, les Égyptiens, plus que jamais favoris pour succéder à eux-mêmes, ont quasiment assuré leur qualification pour la finale.
Tout à fait, Élysée, les Égyptiens de l'Afrique qui ont surclassé les Algériens de l'Entente Sétif sont plus que jamais favoris pour succéder à eux-mêmes. En effet, Al-Ahli n'a fait qu'une bouchée de l'Entente Sétif. Les détenteurs de la Ligue des Champions ont ouvert le score à la 30e minute par l'intermédiaire du Sud-Africain Persito, oublié au marquage. Le petit attaquant a fait mouche de la tête, c'était à la 30e minute. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les Algériens seront réduits à 10 avec l'expulsion de Karawi. Mais cela ne va pas empêcher les Algériens de tenir jusqu'à la pause. Mais à la reprise, les Égyptiens vont prendre les choses en main en doublant la mise à la 54e minute grâce à Taher Mohamed, suite à un joli travail collectif galvanisé par ce deuxième but, le club le plus titré du monde avec 143 titres triplés, la mise à la 72e minute par un autre Mohamed, celui-là c'est Mohamed Chérif, avant de terminer cette rencontre en apothéose puisqu'ils ont inscrit un quatrième but à la 90e minute, un but signé par le Sud-Africain Percy qui s'est offert d'ailleurs un doublé. Il faut dire qu'avec cette large victoire, la manche retour prévue dans une semaine à Sétif ne devrait être qu'une formalité pour les doubles tenants du titre Élysée.
Grand pas vers la finale aussi pour le Wydad de Casablanca qui est allé battre à Luanda le Petro Atlético 3-1. Le WAC, deux fois vainqueur de cette Ligue des Champions, est sur la bonne voie selon son entraîneur Walid Regragui.
On est très contents, c'est un très bon résultat à l'extérieur. En plus, on a marqué 3 buts, donc c'est une vraie performance, surtout avec la chaleur, surtout avec la pression. Ça reste une demi-finale où l'équilibre entre les deux équipes est minime, en tout cas la différence de jeu. Mais aujourd'hui, on a fait un grand match, surtout sur le plan mental. On a su tirer profit de nos moindres occasions, c'est la marque des grands. Maintenant, on n'a rien fait, on est qu'à la mi-temps. Il faudra terminer le travail à la maison avec nos supporters.
Et ce sera le samedi prochain. Amine, belle performance réalisée par le leader actuel de la Botola.
C'est une copie nette et sans bavure qu'a livré le Wydad de Casablanca à Luanda face à Petro Atlético. On s'attendait à une partie plutôt compliquée face au tombeur des Mamelodi Sundowns, en raison aussi de l'absence de trois éléments qui sont des tauliers dans le système de jeu de l'entraîneur Walid Regragui, à savoir le milieu de terrain Jelal Daoudi qui purgeait son deuxième match de suspension après son carton rouge au match aller des quarts de finale contre l'équipe algérienne de Belouizdad. Le Libyen Lafi, out après une grave blessure au ligament croisé, championnat. Et puis Jadi, qui n'a pas encore retrouvé 100% de ses moyens et qui relevait de blessures. Et pourtant, le Wydad a livré une partition presque parfaite avec une victoire 3-1, des réalisations de trois genres, un coup de pied arrêté et dévié dans son propre but par un défenseur angolais, le tir de Jabran, l'action rupture qui amène le troisième but de Mbenza. Seul petit accro, le but concédé en toute fin de rencontre. Mais il n'en demeure pas moins que le Wydad a pris une sérieuse option pour la finale où il pourrait retrouver, comme en 2017, les Égyptiens de l'Ali.
Et en attendant cette grande affiche, on jouait aussi les demi-finales à l'étage inférieur en Coupe de la Confédération. Les Sud-Africains d'Orlando Pirates ont eux aussi assuré à l'extérieur en l'emportant 2-0 sur la pelouse des Libyens d'Ali Tripoli. Jules, belle opération pour le club de Soweto qui abordera le match retour avec un moral au beau fils.
Élysée, Orlando Pirates est un ancien champion d'Afrique qui constituait l'ossature de la grande équipe d'Afrique du Sud pour son retour à la compétition continentale en 1996-2002. Orlando Pirates a aussi capitalisé l'histoire tragico-héroïque du quartier noir de Soweto à Johannesburg, où en matière de football, pourtant en pleine période d'apartheid, jeunes noirs et jeunes blancs têtus se retrouvaient pour créer l'embryon de ce qui sera le football de la nation arc-en-ciel si cher à Mandela. Le retour au premier plan d'Orlando Pirates n'est pas seulement un exploit sportif, mais aussi un message d'espoir. Pour leur déplacement à Tripoli, les Pirates n'étaient pas sûrs de s'adapter à l'authentique opposition de style que devaient leur proposer les joueurs du bol de la Méditerranée. Ils ont su profiter de l'attentisme des adversaires du jour pour développer le jeu agréable et direct qu'ils savent si bien construire. Le scénario de la rencontre, avec une ouverture de score en terre étrangère, les a poussés à chercher le but du break au moment où Al Ahly courait après l'égalisation. En fin de compte, voici les Sud-Africains au pied d'une finale continentale qui leur tend les bras. Seule une catastrophe peut les empêcher de réaliser leurs rêves.
Dans l'autre demi-finale, le TP Mazembe a pris une petite avance, victoire 1-0 au bout d'un match dominé devant la Renaissance de Berkane. Franck Dumas, l'entraîneur des Corbeaux.
Je félicite quand même les joueurs d'avoir toujours insisté et toujours, parce que c'était la seule chose à faire. Deuxième mi-temps, on a eu une équipe du TP qui a posé beaucoup plus le jeu et qui était beaucoup plus dangereuse. Donc on a, malheureusement, on n'a joué que 45 minutes. Ça sera un match différent là-bas, avec une équipe de Barkhane, je pense, complètement différente. Et puis, on a prouvé aussi qu'on savait ces derniers temps un peu voyager, on va dire. Voilà, moi, je préfère partir là-bas avec un but d'avance et à nous de faire le boulot là-bas.
Valdo, les Congolais sont à 90 minutes d'une nouvelle finale dans cette Coupe de la CAF.
Tout à fait, Élisée. Plus que 90 minutes pour renouer avec l'une des finales des interclubs de la CAF, en l'occurrence la Coupe de la Confédération. C'est pas important, fait par Mazembe, est intervenu au bout du suspense. Il fallait attendre les temps additionnels pour que Bakata délivre tout un stade avec son but au bout du bout, permettant ainsi au Corbeau de se donner un peu d'air avant la décisive demi-finale retour à Berkane. Cette victoire de Mazembe est la troisième consécutive à domicile dans cette même compétition, ce qui prouve à suffisance que Mazembe est sur une très bonne dynamique. Mais le plus important est à venir. Cette fois-là, il faudra aller chercher la qualification à Berkane. Un match retour qui s'annonce difficile à manœuvrer quand on sait que l'entraîneur de Berkane, Florent Ibenge, est capable de déjouer le Corbeau et surtout qu'en déplacement, Mazembe ne gagne presque pas. Mais est-il qu'en pareille situation, à défaut d'une victoire, les Corbeaux peuvent bien se contenter d'un nul afin de retrouver la finale de cette compétition après la double consécration 2016 et 2017.
La réaction des Marocains est donc attendue et l'entraîneur Florent Ibenge y croit encore.
C'est une équipe très compliquée à jouer parce qu'ils ont des grands gabarits et ils vous mettent la pression. Donc on savait comment un petit peu gérer ça. Et quand on a récupéré le ballon, on n'a pas été très bon dans son utilisation. Voilà, on a vu, je ne vais pas vous rappeler les scénarios des derniers matchs de Coupe d'Europe. Il y a une équipe qui menait 2-0, elle a perdu 3-2. L'autre qui menait et qui était qualifié et qui a perdu dans les arrêts de jeu 33-1. Donc, faut qu'on reste déjà avec la volonté d'aller en finale.
Alors, Amine, tout se jouera en fin de semaine à Berkane.
C'est un exercice de survie qu'a effectué ce dimanche la Renaissance sportive de Berkane face à une équipe du TP Mazembe qui a contraint Berkane à constamment défendre en bloc bas et à se contenter de quelques maigres contre-attaques. Les arrêts du gardien Hamza Hamyani ont retardé l'échéance quasiment aux arrêts de jeu du match. Et ce but qui permet aux Congolais de partir avec un léger avantage. Cela ne veut pas dire que l'équipe du TP Mazembe a déjà parti gagner, puisqu'il y aura une rencontre retour et un match où Berkane, avec son public, est capable d'effectuer la remontada, mais à condition de jouer de manière un peu plus entreprenante et de ne pas subir les coups de boutoir d'une équipe congolaise qui ne viendra pas au Maroc pour faire de la figuration.
Les matchs retour sont prévus en fin de semaine. Hand handball à présent, avec le 38e championnat d'Afrique masculin et féminin des clubs vainqueurs de coupe qui démarre demain à Niamey. Au niveau des hommes, dans la poule A, nous avons Al Ahly d'Égypte, FAP du Cameroun, Caïman du Congo-Brazzaville, Don Bosco de la Côte d'Ivoire et de Kirikos d'Éthiopie. Groupe B, Zamalek d'Égypte, Jeunesse Sportive de Kinshasa, Canopilas du Nigeria, Flowers du Bénin et l'AS Niamey du Niger. À Médine, le premier rendez-vous des clubs réunit les ténors du continent.
Ah oui, Élisée, cette 38e édition du championnat d'Afrique masculin et féminin des clubs vainqueurs de coupe qui démarre demain à Niamey va regrouper la crème hein, du handball africain, car les meilleurs clubs du continent seront présents, aussi bien que chez les dames que chez les messieurs. Au niveau des hommes, nous avons deux groupes hein, très relevés, avec la présence des clubs égyptiens comme le Zamalek et Al Ahly, mais aussi avec des formations comme FAP hein, du Cameroun, Canon du Nigeria, et des clubs qui ont déjà fait leur preuve partout. Je pense franchement, Élisée, qu'on aura droit à des matchs palpitants durant cette 38e édition de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe. Élisée.
Lawal, gros challenge pour le club de Cotonou.
Oui, Élisée, c'est un véritable challenge pour ce club, parce que quand on sait que au niveau du championnat du hand béninois, il a commencé par avoir quelque chose qui se fait, le championnat est légèrement professionnalisé, et les acteurs ont commencé par avoir des sponsors et tout le reste. Donc on espère que tout ceci mis ensemble va aider ce club à ne pas faire piètre figure, parce que par le passé, les clubs béninois ont eu des difficultés à imposer leur jeu quand ils vont à des championnats, et on a entendu entre-temps un entraîneur dire que l'essentiel pour lui c'était de participer, et ce n'est plus aujourd'hui une raison.
On espère que Aimé Sebio ne prononcera pas ce même discours.
On l'espère bien, parce que fondamentalement, les Béninois avaient été choqués quand cet entraîneur a dit ces propos-là, alors qu'ils étaient bons derniers au cours du championnat, malheureusement. Mais aujourd'hui, quand on sent que les moyens sont mis et que le handball béninois est encore un peu plus professionnel que par le passé, on espère que Flowers va véritablement montrer du beau jeu afin de ne pas rentrer bredouille comme par le passé. On espère pour les Béninois qu'ils vont faire un bon tournoi, un bon championnat, afin que le niveau du hand puisse continuer pas monter dans ce pays de l'Afrique.
Comme le dit le gouvernement, il faut révéler le pays à travers le sport. Merci Lawal. Au niveau des dames, il s'agira d'une poule unique qui réunit le Petro d'Angola, les FAB du Cameroun, Héritage de la RDC, DGSP du Congo-Brazzaville, Bandama de la Côte d'Ivoire et Dynamique du Cameroun. Alors, Valdo, la tâche s'annonce ardue pour les deux représentants congolais.
Très ardu, Élisée, pour les deux clubs de la RDC qui n'auront pas la tâche facile, surtout chez les dames. Dans un groupe unique, Héritage fera face directement au Cador, notamment Petro Atlético d'Angola, finaliste malheureux des éditions 2018 et 2019, et bien d'autres adversaires. Il faudrait noter que le club de la RDC, dans cette version, peine à se faire une place de choix dans cette compétition. Et là, une fois de plus, Héritage a l'occasion de se frotter avec les géants du handball continental. Chez les messieurs, il faut dire que le handball club jeunesse sportive de Kinshasa est appelé à reprendre les choses là où il les avait laissées après l'absence des éditions 2020-2021 de cette compétition pour cause des Covid-19, puisque le club congolais avait réussi à s'inviter au dernier carré deux éditions de suite avant cet arrêt. Donc, pour dire que ça sera difficile avec notamment les Zamalek, tenant du titre, à jouer en face des groupes. Mais le club de la RDC a un coup à jouer et un parcours à parfaire.
Merci Valdo. En attendant l'ouverture de la compétition avec comme première affiche AS Niamey Flowers, on a assisté hier à la Supercoupe d'Afrique. Le duel égyptien a tourné à l'avantage d'Al Ahly du Caire, qui remporte le trophée après avoir battu d'un but d'écart le Zamalek, score 32-31. Du cyclisme pour clore cette émission, l'épilogue de la 17e édition du Tour du Bénin avec le sacre de l'Allemand Marcel Pagès qui succède ainsi au Burkinabé Paul Demont. Le coureur de l'équipe, Ambrose de Wolde, s'ajuge le maillot jaune dans les rues de Porto-Novo, même si c'est le Burkinabé Bachirou Nikiema qui a remporté la dernière étape allant de Sehwe à Porto-Novo, 138 km. Il a devancé au sprint le Belge Bjorn Dedeker et le Marocain Mounir Makchoun. Le Maroc, justement, finit en beauté grâce à Arbaoui qui a remporté le Grand Prix de Cotonou couru hier sur une distance de 104 km. Amine, les Marocains qui se sont préparés en Turquie se contenteront de ce prix.
On parlera tout de même de participation honorable des cyclistes marocains. Il y a eu la deuxième place lors de la dernière étape de Makchoun. Il y a eu la victoire lors du Grand Prix de Cotonou de la part de Arbaoui, la troisième place de Dormi lors de ce même Grand Prix. Des résultats encourageants pour une jeune sélection marocaine totalement renouvelée puisque le Maroc repart sur de nouvelles bases avec une jeune équipe nationale qui a pour objectif la prochaine édition des Jeux Olympiques de Paris. Il va falloir engranger le maximum de points, décrocher ce fameux quota olympique pour pouvoir aspirer à aller aux JO. Et puis il va falloir se rappeler aussi que pour pouvoir décrocher ce maximum de points à UCI Afrique, il faudra renouveler ses participations dans les différentes manifestations, que ce soit le Tour du Faso, du Rwanda ou le Tour du Maroc qui va revenir très très rapidement sur la scène internationale.
Cette édition de 2022 qui est montée en grade dans le classement UCI avec la participation en nombre des coureurs européens. Paris réussit donc pour Romiad Razoumen, président de la Fédération béninoise de cyclisme.
Franchement, ce qui se passe là, c'est pour qu'on gagne dans deux ans. C'est ce que moi je vois. Hein, parce que vous avez vu, ceux qui sont les meilleurs ont gagné. Et c'est ce à quoi nous avons pensé dans notre plan de développement stratégique. C'est-à-dire que... Et ça doit être sans complaisance et sans pitié. Il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas de faveur, il n'y aura rien. Ces équipes invitées ont l'habitude de courir au niveau de 2.1. Et nous, notre niveau, c'est 2.2. Et si nous restons dans les roues, ça veut dire qu'on sera bon dans quelques années. Et notre équipe est vraiment à saluer. Parce que si on a des gens qui ont roulé à 44 de moyenne sous la pluie, en même temps que les Européens, les Sud-Africains, c'est formidable. Moi, je suis très, très heureux de ça. Je suis aussi impressionné par l'organisation sécuritaire du Tour. Parce que nous étions là-haut, nous étions proches des zones rouges. Nous n'avons eu aucun problème parce que la sécurité nationale était là.
Une première expérience réussie, tout simplement, Lawal.
Oui, Élisée, les petits plans ont été mis dans les grands. Le président de la Fédération béninoise de cyclisme a de la vision et tout ce qu'il a entreprend dans ce domaine montre que le Bénin est en train de se révéler au monde par le sport comme le souhaite le gouvernement. Et le cyclisme, ce tour réussi avec un nombre record de participants et de victoires des Occidentaux montre bien que le Bénin est en train de se placer dans la catégorie des pays les mieux organisés en matière de cyclisme. On espère que ça va continuer comme ça et que les années à venir, le Bénin va quitter les 2.2 pour aller peut-être encore plus loin dans le classement de l'Union Cyclisme International. C'est déjà heureux que le cyclisme puisse se révéler de cette façon parce que le président et la fédération ont de la vision et cette vision a commencé par porter. C'est bien Élisée et on espère que les années à venir, ce sera encore meilleur.
Voilà qui est clair. À noter que près de 80 coureurs venus de 13 pays, dont 9 Africains et 4 Européens ont pris part à ce Tour du Bénin 2022 qui s'est déroulé du 3 au 8 mai sur une distance totale de 748 km. Sporama qui s'achève. Merci à tous ceux qui l'ont suivi un peu partout dans le monde, en FM ou encore sur le bouquet Canal Plus et sur notre site internet. On se retrouve lundi prochain, mais pour l'heure, profitez des programmes de votre radio. Au revoir.